France Inter. Le journal Thomas Vichard. Bonsoir.
Bonsoir. Emmanuel Macron passe la deuxième en vue des européennes. Le chef de l'État répond aux lecteurs du groupe de presse Ebra et charge de nouveau le Rassemblement National qui ne propose rien, selon le président français, dans cette campagne. Le gouvernement français qui annonce aujourd'hui sa dernière salve de mesures pour mettre fin à la crise agricole. Les syndicats ne sont pas d'accord entre eux. Vous entendrez la position réticente face aux mesures de la Confédération paysanne. Et puis large place au sport dans ce journal avec le sacre du PSG retardé en Ligue 1. Match nul des coéquipiers de Kylian Mbappé face au Havre. Le match vient de se terminer. Nous serons au Parc des Princes. Et puis également dans ce journal, la déception des joueuses du 15 de France, balayées par l'Angleterre dans le match décisif des Six Nations.
France Inter.
Une nouvelle charge contre le Rassemblement National. Emmanuel Macron continue de s'investir dans la campagne européenne. Après son discours à la Sorbonne jeudi, le président récidive en répondant aux questions de 12 jeunes lecteurs du groupe de presse régional Ebra. Et à nouveau, le chef de l'État attaque le RN largement en tête des sondages, Élodie Fauré.
Interrogé sur la montée du Rassemblement National, Emmanuel Macron sonne la charge. Il y a une hypocrisie démocratique du RN, assène le chef de l'État qui mitraille. Le parti lepéniste ne propose rien, dit-il. S'en prenant ensuite à l'inconstance de l'adversaire, il y a 7 ans, il voulait sortir de l'Europe. Il y a 2 ans, on ne savait plus trop. Puis sur les agriculteurs, ils ne votent pas la PAC, s'exclame le chef de l'État. Jordan Bardella a en effet voté contre en 2019. En 2021, il a en revanche voté pour. Mais qu'importe les détails pour Emmanuel Macron, l'essentiel est de passer des message simple. Je dis la technique, aujourd'hui la pédagogie sur son concept d'Europe puissance. Le chef de l'État qui a notamment de nouveau appelé à rendre crédible la défense européenne. Mettons tout sur la table et regardons ce qui nous protège véritablement, insiste Emmanuel Macron, assumant d'ouvrir le débat sur l'arme nucléaire.
Élodie Fauré, service politique de France Inter. 14 dernières mesures pour clore la crise agricole. C'est la promesse de Gabriel Attal qui a dévoilé ses annonces lors d'une visite dans la Manche aujourd'hui, avec des exonérations partielles d'impôts pour les agriculteurs les plus endettés, des aides pour la trésorerie, l'accélération également des chantiers de retenue d'eau. Le Premier ministre confirme par ailleurs que la réforme des retraites agricoles s'appliquera bien dès 2026 avec les 25 meilleures années de carrière. Si tout ça correspond aux attentes des syndicats majoritaires, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, pas le cas de la Confédération paysanne, en particulier sur cette question des retraites, selon Laurence Marandola, la porte-parole du syndicat classé à gauche.
On ne peut pas dire que d'aligner à partir de 2026 le régime de retraite des agriculteurs sur celui du régime général. Ce n'est pas du tout ce qui va se passer avec la question des 25 meilleures années. Ça va changer le type de cotisation et ça laissera sur le bord de la route une quantité d'agriculteurs qui n'ont pas les 25 meilleures années. Je voudrais d'abord citer les retraites de nos collègues des départements et territoires d'outre-mer pour des retraites agricoles en dessous de 500 euros. Eux ne sont pas concernés par cette mesure. Je voudrais aussi rappeler que les femmes, les paysannes ont des retraites pour l'immense majorité d'entre elles, en dessous des 1 000 euros. Et elles ne seront pas non plus concernées par les 25 meilleures années, ni les carrières incomplètes. Ça va laisser plein de gens sur le bord de la route. Et ça, c'est vraiment inacceptable.
Des critiques que ne comprend pas le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau.
On avait besoin de travailler sur des mesures complémentaires au travers de ce qui était des attentes de tous les syndicats, ça je crois qu'on peut le dire ainsi. Oui. Sur la question de la trésorerie, c'est le sens des 100 millions d'euros de garantie d'emprunt qui permettront à des agriculteurs qui n'ont pas accès à l'emprunt aujourd'hui de pouvoir y avoir accès par un système de garantie. Et puis là, c'est la prise en compte des 25 meilleures années dans la retraite agricole, ce qui était une demande de la profession. C'est un texte qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Alors maintenant qu'on nous dise qu'on ne va pas assez loin, là je dois dire que je comprends mal. Moi, ce qui m'importe, c'est que les agriculteurs, ceux qui nous écoutent et en général, ceux qui vont être à la retraite, sachent qu'ils vont pouvoir rentrer dans la carrière, si je peux dire, avec le sentiment que leurs retraites vont vraiment être améliorées. Je trouve qu'on peut pas être en permanence dans une forme de surenchère, de le comptiez pas. Sur les retraites, on aura fait ce qui n'avait jamais été fait depuis 40 ans vis-à-vis du monde agricole. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle.
Marc Fesneau, chez nos confrères de France Info, tout à l'heure, le ministre de l'Agriculture qui était aux côtés de Gabriel Attal lors de cette visite dans la Manche aujourd'hui. Une deuxième vidéo d'otages israéliens diffusée dans la journée par le Hamas. On y voit cette fois deux hommes de 64 et 47 ans qui parlent visiblement sous la contrainte. Ils ont été identifiés par les forums des familles des otages. Ces deux hommes enlevés le 7 octobre dans le sud d'Israël, puis emmenés à Gaza. En réaction, des manifestants se sont réunis à Tel Aviv, en Israël, peu après la publication de cette vidéo. Ils demandent aux autorités un accord pour la libération des otages. Des négociations de trêve dans la bande de Gaza assorties de libération d'otages se poursuivent justement ce week-end sous la médiation de l'Égypte et du Qatar. C'est une image très rare maintenant qui nous vient d'Espagne. Des milliers de personnes ont investi les rues de Madrid aujourd'hui pour demander au Premier ministre espagnol de ne pas démissionner. Pedro Sanchez, au pouvoir depuis 6 ans, envisage de jeter l'éponge après l'ouverture d'une enquête contre son épouse pour trafic d'influence et corruption suite à une plainte d'une association proche de l'extrême droite espagnole. Il lui est reproché ses liens avec des entreprises privées qui ont reçu des aides publiques. Alors, pour faire face, les sympathisants socialistes demandent au Premier ministre de tenir bon et de rester, Marie-Hélène Ballestero.
La journée est historique pour les socialistes espagnols. Ce matin, le parti a tenu un comité fédéral et pour la première fois, le président des socialistes, Pedro Sanchez, n'était pas présent. Ses camarades, à l'image de la vice-présidente du gouvernement, Valeria Jesús Montero, ont tenu à lui montrer leur soutien sans faille.
Président, reste. Pedro, reste. Nous avons besoin du meilleur leader, du plus courageux, du plus énergique, du plus déterminé et du Pedro le plus humain. Courage.
À l'extérieur du siège du Parti Socialiste Espagnol, les militants se sont donné rendez-vous aussi ce matin. Aucun d'entre eux ne veut que Pedro Sanchez s'en aille et ils sont venus par milliers des quatre coins de l'Espagne pour lui dire haut et fort. Dans sa lettre, Sanchez a dénoncé une plainte déposée contre sa femme, basée sur des faits inexistants et une campagne de harcèlement menée par la droite et l'extrême droite. Les militants socialistes comme José Antonio en sont convaincus et appuient à 100% Sanchez et sa femme.
Je suis venu soutenir le président Sanchez pour qu'il continue, qu'il ne parte pas. Courage, il fait du bon boulot et l'Espagne a besoin de lui. Je n'ai aucun doute, il va tenir. C'est un homme très fort.
C'est vrai que Pedro Sanchez a toujours fait preuve d'une grande capacité de résistance, mais mercredi dernier, il avait l'air particulièrement abattu dans l'hémicycle. Les socialistes espèrent que cette fois-ci, il ne va pas jeter l'éponge.
Marie-Hélène Ballestero et Pedro Sanchez doivent annoncer sa décision lundi. En France, un peu moins de 10 000 foyers du sud-ouest privés d'électricité ce soir après les orages et vents violents. Ça touche principalement la Dordogne, mais aussi la Corrèze et le Tarn, selon le gestionnaire Enedis. En Dordogne, des chutes d'arbres sur des lignes à haute tension ont provoqué des coupures de courant chez près de 9 000 clients d'Enedis. Des perturbations également sur les rails. 8 départements du sud-ouest étaient placés en vigilance orange aux orages cet après-midi. Météo France a levé l'alerte en début de soirée. Pas encore de 12e titre de champion de France pour le Paris Saint-Germain. Les hommes de Luis Enrique viennent de concéder le match nul 3 buts partout face au Havre au terme d'une rencontre spectaculaire. Bonsoir Julien Froment.
Bonsoir.
Vous êtes en direct du Parc des Princes. Alors Julien, est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le PSG à 4 jours de la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund?
Non, pas d'inquiétude puisque le Paris Saint-Germain avait effectué pas mal de roulements dans son 11 de départ. Mais c'est vrai que ce match est assez surprenant puisque le Paris Saint-Germain avait tout pour l'emporter, tout pour célébrer ce soir son 12e titre de champion de France. Il fallait une victoire face à un club promu, face au Havre. Mais l'histoire ne s'est pas passée comme prévu puisque c'est le Havre qui a vraiment réalisé un très beau match en menant jusqu'à 3 buts 1 face au Paris Saint-Germain. Paris qui est revenu en fin de partie dans la rencontre grâce à des buts assez tardifs, et notamment le dernier but, le but du 3 partout à la 95e minute de jeu, dans les arrêts de jeu, à la fin des arrêts de jeu, le Paris Saint-Germain qui a égalisé, qui avait peut-être les jambes au Parc des Princes, mais la tête surtout à Dortmund, car vous l'avez dit, il y a la demi-finale aller de la Ligue des Champions face au Borussia. Ce sera mercredi, le Paris Saint-Germain qui se contente du nul et qui devra attendre demain soir pour savoir s'il sera sacré ou non champion de France, en espérant que Monaco ne gagne pas sur la pelouse de Lyon.
Ce sera effectivement demain soir à 19h. Julien Froment en direct du Parc des Princes. On le rappelle, le PSG qui se déplace mercredi sur la pelouse du Borussia Dortmund pour cette demi-finale aller de Ligue des Champions. Préparation compliquée également pour les Allemands battus 4-1 cet après-midi par Leipzig en Bundesliga. Toujours pas de grand chelem non plus pour le 15 de France féminin balayé par l'intouchable Angleterre cet après-midi. Victoire 42-21 des Red Roses dans ce match décisif du tournoi Destination. C'est le 6e grand chelem consécutif pour les Anglaises. Alors, bien sûr, il y a de la déception dans les rangs français, mais pour la talonneuse Agathe Socha, le parcours du 15 de France ouvre de belles perspectives d'avenir.
Évidemment, on est déçus. On aurait aimé sortir avec la victoire ce soir. Ce que les Anglaises font très bien, c'est que la moindre erreur, elles nous font payer cash. Et aujourd'hui, il aurait fallu probablement tout et un peu de chance en plus pour gagner. Par contre, nous, je nous vois vraiment évoluer. Oui, le jeu, il n'est pas celui qu'on aurait aimé qu'il soit, mais on a beaucoup grandi. Et je pense qu'il y a eu un avant tournoi Destination 2024 parce qu'on a eu un passé compliqué, trois dernières années très compliquées. Enfin là, sur 6 semaines, on a créé quelque chose, une aventure collective, une aventure humaine. Voilà, aujourd'hui, ça ne suffit pas pour gagner un match, pour gagner ce match-là. Peut-être que dans quelques temps, ça nous permettra de le gagner.
À la talonneuse du 15 de France féminin, Agathe Socha, au micro de Fanny Lechevestrier. J'ajoute que ce crunch s'est joué devant plus de 28 000 spectateurs au stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Record pour un match de rugby féminin en France. Et puis un mot de championnat de France masculin de rugby, le top 14, avec le leader qui a chuté ce soir, le stade français, réduit à 14, s'incline 41-18 sur la pelouse de Clermont plus tôt dans l'après-midi. Toulouse, le deuxième, s'est imposé face au Racing, 32-12. Bordeaux-Bègles monte sur la troisième marche du podium grâce à sa victoire à Bayonne 34-15.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules électriques, hybrides et thermiques. Euromaster, toute notre expertise pour les pros au service des particuliers.
Et demain, les orages se décalent vers l'est, Céline Acosta.
Oui, avec dès le matin des orages possibles des Cévennes à la Bourgogne. Ça devrait se calmer dans l'après-midi, mais les averses seront toujours présentes sur la région Rhône-Alpes et près de la Méditerranée. Pour l'ouest du pays, en revanche, ce sera plus calme le matin, avec même quelques éclaircies, mais quand même encore beaucoup de nuages et un risque d'averse qui va rester présent des Pays de la Loire vers l'Aquitaine. Dans l'après-midi, ce risque d'averse deviendra même orageux entre les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes. On aura toujours un petit peu de vent, mais il va faiblir par rapport à ce samedi. Et pour les régions que je n'ai pas citées, ce sera une alternance de nuages et d'éclaircies. Côté température, on va gagner quelques degrés supplémentaires demain matin puisque la moyenne ira de 6 à 12 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 13 degrés en Bretagne pour la plus basse jusqu'à 17-19 degrés au sud de la Garonne et en Provence.
Céline Dacosta pour la météo, merci.